King Nomad.
Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski, qui est le volet rimouskois de Parking Nomade. Je suis Claude Lacharité et j'ai le plaisir d'animer cette émission littéraire. Aujourd'hui, nous accueillons Camille Deslauriers, auteure du recueil de nouvelles « Au trouble » publié en 2011 aux éditions L'Instant Même. Dans un second volet de l'émission, je répondrai aux questions de Martin Robitaille sur les anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Père, dont nous célébrons cette année, en 2013, le 150e anniversaire de parution. Enfin, dans un troisième et dernier temps, comme le veut le principe de notre émission, je m'entretiendrai à nouveau avec Camille Deslauriers pour parler cette fois des lectures qui ont marqué sa personnalité de lectrice, mais aussi d'écrivaine. Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors, vous avez fait paraître en 2005 un premier recueil de nouvelles qui s'intitulait « Femme boa ». En 2011, vous avez décidé de reprendre ce genre de la nouvelle avec « Au trouble ». Vous avez manifestement un goût marqué pour ce genre de la nouvelle. Certains, comme Gilles Pellerin, l'ont appelé un petit genre. Évidemment, dans cet essai, Gilles Pellerin déconstruit l'idée qu'il s'agit d'un petit genre. Que pensez-vous justement de ce genre?
Je pense que la nouvelle, faut se défaire d'abord de l'idée préconçue que c'est une petite histoire qui se lit très rapidement. C'est un genre qui est très dense. Hein. C'est un genre qui demande une relecture où tout est noué d'une façon très, très serrée, où l'auteur doit aller à l'essentiel très rapidement, où il doit dire le plus possible avec le moins de mots possible, un peu comme en poésie, mais où il faut néanmoins, parce qu'on est dans la fiction, créer un monde. Et il faut créer un monde très rapidement, tout en explorant la suggestion et l'évocation. Et c'est cette intensité, cette densité du genre, moi, qui me fascine vraiment. C'est un genre qui me fascine aussi parce qu'on a la possibilité de réunir des textes en recueil. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que chaque texte a, dans le fond, une double signification. Il y a sa signification en lui-même comme texte autonome qui se tient, qu'on peut, par exemple, publier en revue avant de publier ce texte-là en recueil. Mais il y a aussi la possibilité de réunir les textes et de créer des échos entre les textes et la co-textualisation. C'est vraiment un truc qui est fascinant. En somme, la nouvelle, c'est un genre bref qui s'inscrit dans un genre long, comme le dit Jean-Pierre Boucher.
Très bien. Et en fait, c'est un genre qui appelle à une forme de virtuosité dans l'écriture, parce que chaque nouvelle est un univers en soi, un monde fermé sur lui, mais en même temps en contact avec les autres univers des autres nouvelles. Il y a une chose qui est frappante dans « En nos troubles », c'est le fait que vous arrivez à être très, très proche de vos personnages adolescents. Vous entrez parfaitement bien dans cette psychologie très particulière qui est celle des adolescents. Comment vous faites?
D'abord, je pense que tous les écrivains doivent toujours faire preuve de beaucoup d'empathie pour s'immiscer dans l'espace intime des personnages. Mais au départ, j'ai été fascinée par des thèmes qui touchaient les adolescents. Donc, on peut penser à l'avortement, à l'intimidation, au premier amour, au premier deuil qu'on va vivre, au rapport à la mère, des thèmes comme ça. Mais aussi par l'intensité, parce que quand on est adolescent, j'ai l'impression que tout devient très intense, que tout peut potentiellement devenir un drame. Or, la nouvelle explore souvent ce genre de crise-là. Donc, des petites et grandes crises de la vie, des instants pivots, des doutes existentiels. Et ça me plaisait de pouvoir me glisser dans les intensités adolescentes, au fond.
Alors, il y a une chose qui est frappante aussi dans la lecture de votre recueil « Au trouble », Camille, c'est le fait que vous avez aussi un goût très marqué pour les différentes formes d'art, que ce soit la peinture, la musique. Ça vous vient d'où, ce goût?
Ça vient d'une fascination pour tous les arts en général et du fait qu'on ne peut pratiquer tous les arts. Donc, c'est ma façon à moi de transposer cette passion-là dans l'écriture. D'abord, la musique, parce que j'ai appris le violoncelle et le piano quand j'étais au secondaire. Je pense que j'écris mes textes un peu comme des partitions, au fond. C'est-à-dire que je les retravaille beaucoup à haute voix. Je travaille beaucoup le rythme. Mon écriture comporte des leitmotivs, des ellipses de virgules. Parfois, je fais sauter des éléments de syntaxe qui devraient en fait être là. Mais c'est vraiment pour travailler le texte comme une musique. Et dans la nouvelle, ce qui est super important aussi, c'est les poids du silence. Et de travailler mes textes comme une musique me permet aussi de, en quelque sorte, de faire résonner ces silences-là. D'autre part, j'ai une fascination pour l'art visuel et je pense que d'emblée, les toiles sont déjà très chargées symboliquement. Donc, quand on convoque une toile de Dali, une toile de Chagall, bien, ça nous permet d'ajouter un surplus de sens et d'emblée d'intégrer dans notre nouvelle quelque chose qui évoque beaucoup, qui suggère beaucoup. Donc, tantôt, je parlais d'évocation, de suggestion. Bien, c'est une façon de donner un deuxième niveau, si on veut, à mon écriture que de convoquer comme ça les arts visuels et la musique, je pense.
Mm-hmm. Et d'une certaine façon, on revient aussi à la question précédente, c'est-à-dire qu'en renouant avec des formes d'art que vous pratiquiez adolescente, vous vous replongez d'une certaine façon, peut-être à votre insu, dans votre propre adolescence pour créer des personnages d'adolescents.
Effectivement.
Alors, Camille, j'en viens maintenant à une dernière question. Je voudrais savoir un peu ce que l'avenir nous réserve. On a évoqué tout à l'heure votre goût pour la nouvelle. Est-ce que vous avez en chantier un troisième recueil de nouvelles ou est-ce que vous décidez plutôt de vous orienter vers d'autres genres, d'autres pratiques littéraires pour votre prochaine œuvre?
En fait, j'ai deux projets en cours d'écriture. Oui, un troisième de recueil de nouvelles qui s'intitule « À demi-mot ». Où j'explore des personnages qui sont en situation de lecture et d'écriture, mais de lecture et d'écriture courante, donc pas littéraire. Alors, par exemple, un petit personnage qui est en train de faire une dictée, il y a quelque chose qui va se passer pendant cette dictée-là, un personnage qui est en train de lire le journal ou de faire des mots croisés, il y a quelque chose qui va se passer pendant ce laps de temps-là. Sinon, j'ai un projet de roman en cours aussi qui s'intitulerait « Trois fées » et qui explorerait, si vous voulez, peut-être le thème... à l'autre extrémité du spectre de la vie, qui explorerait la vieillesse au fond et qui s'inspirerait très librement de la figure des trois parcs. Les trois parcs tiendraient une résidence pour aînés. Et bon, il se passerait plein de choses dans cette résidence-là. Alors, c'est un petit peu les projets qui m'animent pour les années à venir.
Tout à fait intéressant. Merci beaucoup, Camille.
Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité.
Au retour de la pause, je répondrai aux questions de Martin Robitaille sur les anciens Canadiens.
Nous fêtons cette année les 150 ans de la parution des Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé, père. Alors, cher Claude, en quoi ce livre est-il un classique de notre littérature?
Alors, Martin, c'est une excellente question. En fait, hein, il y a de très nombreuses définitions de ce qu'est un classique. Mais si on s'en tient à la définition la plus communément admise, la plus simple, un classique, c'est une œuvre littéraire qui s'enseigne tout simplement en classe. Et en réalité, c'est le premier classique de notre littérature parce qu'effectivement, c'est la première œuvre littéraire qu'on a enseignée en classe, qui a fait partie de la petite collection des classiques canadiens créée par l'abbé Casgrain au 19e siècle. Il faut dire que ça a été en réalité un succès phénoménal dès la parution.
Alors, mais pourquoi un tel succès?
Alors, ça a été un succès. Alors, d'abord, il faut peut-être évoquer quelques chiffres pour en donner l'ampleur, parce que on a un peu perdu de vue l'importance de cette œuvre dans son siècle. Dès 1863, l'imprimeur Desbarats décide de tirer le roman à 2000 exemplaires. Les 2000 exemplaires se vendent comme littéralement de petits pains chauds. Dès l'année suivante, en 1864, Desbarats décide de donner une nouvelle édition, tirée cette fois à 5000 exemplaires. Ça veut dire donc que sur deux années, 7000 exemplaires plus ou moins du roman se sont écoulés, ce qui est énorme. Hein? Même à l'aune d'aujourd'hui, en fait, un roman québécois qui se vendrait à 7000 exemplaires, ce serait un succès colossal en 2013.
C'est un best-seller.
Alors, voilà, exactement. Et imaginons ce que ça pouvait représenter en 1863, quand il y avait une population nettement réduite et nettement moins de lecteurs. Mais la raison plus, je dirais, fondamentale de ce succès, c'est que ça répond, au fond, à des questions que beaucoup de Québécois de l'époque se posent. Beaucoup de Québécois ont été heurtés, entre autres, par le fameux rapport Durham, qui a été publié donc à la suite de la révolte des Patriotes. Et dans ce rapport, Lord Durham avançait l'idée extrêmement controversée que les Québécois, les Canadiens français, étaient un peuple sans histoire et sans littérature. Philippe Aubert de Gaspé, avec son roman « Les anciens Canadiens », offrait d'une certaine façon un démenti cinglant à cette thèse en montrant que les Canadiens français avaient non seulement une histoire qui est mise en scène dans le roman, mais qu'ils avaient aussi une littérature du fait même de la parution de ce roman.
Alors, je vous pose une question maintenant un peu naïve. Qui sont ces anciens Canadiens, en fait? Pourquoi parle-t-on d'anciens Canadiens?
Ben oui, ils sont anciens par rapport à qui? C'est une excellente question, en fait. En réalité, les anciens Canadiens, pour Philippe Aubert de Gaspé, ce sont les Canadiens qui ont vécu à l'époque de la Nouvelle-France. Hein? Donc, tous ceux qui sont nés avant, en quelque sorte, la conquête de 1763. Alors, les nouveaux Canadiens par rapport aux anciens Canadiens, ce sont ceux qui se sont établis après la conquête de la Nouvelle-France par l'Angleterre, et ça désigne, entre autres, nouveaux occupants de la colonie, c'est-à-dire les Britanniques, hein, qui ont tendance à ne pas s'identifier eux-mêmes comme Canadiens, ils se perçoivent généralement comme des Britanniques, mais certains d'entre eux, entre autres ceux qui sont nés dans la colonie, commencent progressivement à développer une identité canadienne. Alors, les anciens Canadiens, ce sont ceux qui sont, en quelque sorte, d'origine française, dont l'établissement remonte à l'époque de la Nouvelle-France.
Très bien. Et en quoi cette œuvre peut-elle encore nous parler aujourd'hui?
Oui, alors c'est une excellente question. En fait, c'est un roman qui relate, hein, ça j'ai pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à maintenant, en fait, une vision un peu idéalisée de l'époque de la Nouvelle-France. Hein. L'enjeu du roman, c'est précisément le moment où la Nouvelle-France est conquise par la Grande-Bretagne. L'épisode central du roman, c'est la bataille des Plaines d'Abraham qui met aux prises littéralement deux frères, je dirais, d'adoption. D'une part, Jules d'Aberville, qui est un descendant du seigneur de Saint-Jean-Port-Joli, et d'autre part, Archer de Lochiel, qui est un orphelin écossais, mais qui a fait toutes ses études au séminaire de Québec et qui a été accueilli comme un enfant de la famille par les d'Aberville à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, ce sont en quelque sorte deux frères presque de lait, j'ai envie de dire, qui se retrouvent donc sur le champ de bataille, dans des armées opposées. Jules, évidemment, combat du côté de la France, tandis que Archer, lui, combat du côté de l'armée britannique. Et évidemment, Archer va être confronté à un certain nombre de choix douloureux. Il va devoir notamment obéir à un ordre qui lui est donné par son supérieur, qui consiste à brûler le manoir familial des d'Aberville, alors que pourtant c'était un peu sa maison, là où il a été accueilli comme orphelin de l'époque de la Nouvelle-France. Mais surtout, c'est un roman qui reste d'actualité parce que c'est un roman qui nous en apprend beaucoup sur les pouvoirs de la littérature et sur les pouvoirs de la fiction. D'une certaine façon, la vision que Aubert de Gaspé nous donne de la Nouvelle-France dans son roman s'est imposée à nous. On a tendance à croire que la Nouvelle-France, c'est précisément la Nouvelle-France que Aubert de Gaspé met en scène dans son roman, alors que bien sûr, c'est une Nouvelle-France totalement idéalisée. Mm-hmm. Hein? Et ouais. Ça nous montre à quel point la littérature peut imposer justement certaines représentations dans l'imaginaire collectif, même auprès des gens qui n'ont pas nécessairement lu les anciens Canadiens. Et il faut bien dire une chose, c'est qu'Aubert de Gaspé, pour nous, semble être un homme tout droit tiré de la Nouvelle-France. Or, il est né bien des années après la conquête et il n'a jamais connu, pas plus que nous d'ailleurs, mm-hmm. la Nouvelle-France. Donc, c'est en toute méconnaissance de cause qu'il parle lorsqu'il écrit les anciens Canadiens, mais il nous relate en quelque sorte une espèce de mythe fondateur hein, qui est évidemment essentiel pour comprendre l'histoire des Québécois, pour ouais. comprendre aussi notre culture. Et cela, même si certains, je dirais, Québécois se sont opposés, par exemple, à la reconstitution de la bataille des Plaines d'Abraham récemment. Il reste que, quelles que soient nos opinions politiques, quelle que soit notre vision de cet événement, ça reste quelque chose de fondateur. Le Québec n'existerait pas s'il n'y avait pas eu de conquête. Je pense que c'est une évidence, mais c'est le roman peut-être de Philippe Aubert de Gaspé qui nous impose avec le plus de force et d'éloquence cette grande vérité par rapport à cet événement central dans notre vie collective.
Très bien. Merci infiniment, Claude.
Merci, Martin.
Au retour de la pause, Camille Deslauriers nous parle de ses livres influents.
Alors, je suis de retour avec Camille Deslauriers pour discuter maintenant des livres qui ont marqué, évidemment, sa personnalité. J'ai envie tout de suite de commencer par un extrait de votre recueil. Dans la dernière nouvelle d'Eau trouble, en fait, on a un personnage qui est une chargée de cours qui s'appelle Amélie Larose, personnage tout à fait attachant par ailleurs, qui nous énumère les livres qu'elle a dans son sac à dos. Je cite « Poèmes à rêver »,« Les fleurs du mal »,« Monde fragile, choses frêles »,« Poids plume », cet imperceptible mouvement va s'avoir troublant. Est-ce que les lectures d'Amélie Larose, ce sont les vôtres?
D'abord, je pense que je peux confier que cette enseignante de français-là, qui est en début de carrière, me ressemble beaucoup même dans sa façon de rougir. Alors oui, bien sûr, il y a des lectures qui sont dans son sac à dos, qui sont des livres qui m'ont marqué. Je pense par exemple à Troublant de Gorriveau, qui est un recueil de micro-nouvelles magnifiques, absolument troublantes, hein, c'est le cas de le dire, où il n'y a pas un mot de trop. Je pense aussi à cet imperceptible mouvement d'Aude qui m'a influencé beaucoup dans le travail sur le dépouillement, dans la forme de l'écriture, parce qu'avant, mon écriture était beaucoup plus métaphorique, surchargée. Avec Aude, j'ai appris le poids des silences, j'ai appris le dépouillement. Donc oui, des livres qui m'ont marqué. Il y a aussi dans son sac des livres qui sont destinés à introduire la poésie aux adolescents, par exemple. « Poème à rêver » de Louise Blouin, c'est un livre dont je me suis servie entre autres quand j'enseignais aux futurs enseignants de français, pour leur parler de poésie. Il y a aussi des livres, je vous dirais, qui sont là parce que leurs titres peuvent être des connotations. Je pense à « Monde fragile, chose frêle hein, », qui évoque presque d'emblée l'adolescence, « Troublant » aussi. Donc oui, bien sûr, il y a des lectures qui ont été marquantes pour moi, mais il y a aussi des sons dans les titres. Il y a aussi un sens à ces titres-là et c'est tout ça que j'ai voulu mettre dans le sac d'Almélie Larose.
Intéressant. Et puis si maintenant on jette un œil du côté des épigraphes, donc des citations qui ouvrent soit les recueils, soit chacune des nouvelles. Moi, j'ai retrouvé dans vos deux premiers recueils, donc des citations de Jacques Poulain, d'Hélène Dorion, d'Anne Hébert, de Madeleine Ouellette-Michalska, d'autres. Est-ce que là aussi, ça nous dévoile un aspect important de votre bibliothèque?
Bien, je vais tricher un peu et je vais m'attarder davantage à l'exergue que j'ai mis... au début du recueil au trouble, qui est de Jacques Poulain, et je vais même le lire. Le rêve est très utile. C'est même la meilleure façon d'apprivoiser la réalité. J'ai choisi cet exergue-là parce que j'ai pas un personnage qui habite vraiment le réel. J'ai toujours l'habitude de dire que mes personnages habitent le réel à temps partiel dans mon premier recueil comme dans mon deuxième. Et dans ce deuxième recueil-là, je m'étais donné la contrainte en quelque part... que mes personnages habitent une espèce de double espace-temps, si on veut. Donc, soit par un texte qu'ils sont en train d'écrire, soit par une toile qu'ils sont en train de peindre, soit par le fantasme, le souvenir, il y a toujours deux espaces-temps qui se mettent en place. Et pour moi, c'est ça que la phrase de Jacques Poulain évoquait, ce rêve dont on a besoin pour exister dans le réel, dans le fond.
Vous ne lisez donc pas que des nouveliers ou des nouvellistes, puisque Jacques Poulain, à ma connaissance, n'a jamais publié de recueil de nouvelles.
Non, en effet, il y a des romanciers qui sont marquants dans mon parcours aussi. Je pense notamment à Anne Hébert. Anne Hébert, Les Fous de Bassan, ça a vraiment changé ma vie, si on peut s'exprimer ainsi. Anne Hébert m'a donné des permissions. C'est la première qui m'a fait remarquer, parce que son écriture est très sonore, qu'on pouvait faire éclater la phrase, qu'on pouvait jouer avec la syntaxe, qu'on avait le droit de faire des phrases nominales, entre autres... et de s'amuser avec l'écriture comme avec une musique. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait dans le premier segment de l'émission tantôt. La musique est très importante et Anne Hébert a été une auteure marquante pour moi sur ce plan-là, au plan de la musique des mots.
Et c'est vrai que c'est marquant dans votre écriture, hein, on sent un effort, c'est peut-être pas le bon terme, mais on sent une sorte de prose poétique hein, qui innerve chacune de vos nouvelles et qui fait penser effectivement, et j'avoue que je n'y avais pas pensé en vous lisant a priori, mais à Anne Hébert et à sa prose qui est éminemment poétique elle aussi.
Oui, l'aspect lyrique de ma prose rejoint, parce que dans le fond j'ai l'impression qu'Anne Hébert c'est un peu comme une mer d'encre, si on veut, pour moi et pour beaucoup d'écrivaines québécoises et d'écrivains québécois. Aussi, là, mais c'est vrai, dans mon cas, Anne Hébert a vraiment été une révélation sur la forme elle-même, sur l'écriture elle-même. Lire Anne Hébert m'a carrément donné des permissions. Et bien sûr, Anne Hébert, c'est l'univers marin, c'est l'univers liquide, ce qui revient aussi beaucoup, beaucoup dans mon écriture. Donc, c'est vraiment, pour moi, une écrivaine qui a changé la donne dans mon parcours.
Parfait. Et si vous aviez un autre texte, à part Les Fous de Bassan d'Anne Hébert, à recommander à nos auditeurs, ce serait lequel?
Cet imperceptible mouvement d'Aude pour savourer l'intensité de la nouvelle, pour savourer la perfection de la suggestion qu'il y a dans ces nouvelles-là et pour savourer les silences aussi qu'on retrouve, notamment dans les façons de changer de paragraphe, parfois seulement après une phrase, mais où ça aussi, ça peut devenir signifiant.
Et maintenant, Martin Robitaille va nous lire un extrait du dernier recueil de Camille Deslauriers, Au trouble, publié en 2011, à l'instant même.
Pierre-Luc est une huître, ballotté par les accords en arpège qui se répètent et le plonge comme à l'infini dans les profondeurs de sa peine. Pierre-Luc se cale dans sa berceuse qui couine et il se balance, il se balance, il se balance. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. T'as l'air d'un débile profond. C'est tout ce que sa mère trouve à lui dire pour le réconforter. La vache. Cognac avait 13 ans. C'est vrai, Cognac avait des problèmes cardiaques et il avait de l'eau sur les poumons. Mais il aurait pu vivre encore plusieurs mois, ou même un an peut-être. Le vétérinaire l'avait précisé. La vache. en faisant piquer Cognac, elle a euthanasié son enfance.
C'était l'émission « Sous l'influence des livres », enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski, avec Camille Deslauriers comme invité, Martin Robitaille comme co-animateur, et moi-même, Claude Lacharité, et avec le soutien technique de Jean-Luc Théberge. Merci et à la prochaine!
Parking Nomade.